Passionnément Vôtre. Passionnément Vôtre, l'émission 100% passion avec Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Présence Figeac 97.7. Et comme chaque semaine, je suis ravi de recevoir ici des invités pour mon émission Passionnément Vôtre. Et alors cette fois, c'est la première fois qu'on accueille ce genre de spécialité, de passion, pardon. Alors je vais d'abord présenter notre invité. Alors notre invité, c'est Grégory, alias Greg Okopo. Donc Greg, merci à toi d'être venu d'ici, sur les studios, donc je te remercie. Merci à toi. Et donc tu viens d'Aubin, dis-moi.
Oui, Aubin.
D'accord, ouais, ça va, tes voisins. C'est pas loin.
Oui.
Et donc, alors, avant de parler de ton métier, donc, parce que Greg Okopo, il y en a qui a fait la réflexion avec le bois, c'est que tu travailles le bois, tu es tourneur sur bois.
Exactement. Ouais.
Donc, je veux d'abord savoir, voilà, au niveau parcours scolaire, ce que tu as fait avant d'arriver à tourneur sur bois. Comment a été ton parcours, quoi, pardon.
Et bah, du coup, pour le parcours, par rapport au tournage, donc, du coup, ça a été une passion au début, quand j'avais une vingtaine d'années. Donc, du coup, je sortais d'un CAP peintre en bâtiment. Et du coup, j'ai pas continué la peinture professionnellement, et du coup, je vais vers une entreprise de bois de chauffage, donc rien à voir. Et du coup, j'ai eu l'idée, après avoir vu des tourneurs sur des marchés artisanaux, tout ça, de me dire, j'ai du stock de bois à la maison, des chutes, est-ce que j'en profiterai pas? Donc du coup, j'ai commencé à faire du tournage.
Alors c'est marrant parce que c'est parti de chute de bois et l'idée est venue comme ça. En fait,
oui, en fait, depuis gamin, j'ai quand même l'habitude de gratter un peu le bois, d'essayer de faire des jardinières en bois, tout ça. Okay. Bon, on était très loin du tournage quand même. Mais j'ai toujours aimé effectivement le tailler au couteau des bois comme les anciens, et ça se faisait beaucoup chez nous. Ils étaient assis sur leur petite marche et ils taillaient leurs bâtons de marche ou ils fabriquaient des petits objets. Donc j'ai toujours eu ça. Et donc du coup voilà, la passion du bois était là.
Ça me touche parce que bon, j'ai eu un grand-père qui malheureusement est parti, qui travaillait le bois vraiment comme toi, un tourneur quoi. Et bon, il a fait des échiquiers, il a fait des trucs magnifiques, et c'est vrai qu'on fait des trucs magnifiques. Donc on est d'accord, tu es parti d'une chute, mais donc ton premier objet, ta première création, ça a été quoi du coup? Alors, avec cette petite chute de bois là.
C'était une toupie, il me semble.
Ouais.
D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on fait en stage pour eux, parce que c'est assez facile à faire.
Ah, c'est le plastique, c'est la toupie?
Oui, en fait, la toupie de base, sans forme technique, on va dire sur la forme de base, c'est très simple. Ouais, c'est ce qu'on fait faire aux stagiaires.
Ah, d'accord.
C'est pas compliqué.
Mais du coup, tu dis, ouais, tu es parti chez toi, tu as envie de faire, donc tu as quand même une formation du coup à la base? Pour être arrivé à tourneur sur bois, où tu t'as appris sur le tas?
J'ai appris sur le tas. J'ai beaucoup lu de livres. J'ai rencontré un grand tourneur français, Philippe Bourgeois. Donc j'avais commencé à apprendre avec ses livres. Après, je l'ai rencontré une fois. Donc du coup, j'ai pu approfondir avec le visuel et la discussion avec lui. Et après, j'ai vu avec des associations, en discutant avec des tourneurs et pendant. J'ai pris quelques minutes dans des ateliers avec des tourneurs.
Donc t'es autodidacte.
Autodidacte, ouais.
Ah d'accord. Non, c'est pour ça que je demandais tes diplômes. Après, ça n'empêche pas d'être bon, même s'il n'y a pas de diplôme. Mais c'est pas compliqué quand même de
Bah si, dire, c'était long. Ouais.
Ah voilà. Même si on a fait des facilités, ça va être un peu au début, un peu.
On fait un peu machine arrière en fait.
Ah.
Autodidacte, pour moi, en fait, j'ai évolué. Mm-hmm. Et je suis revenu en arrière parce qu'en fait, on se rend compte que quand on n'a pas appris par quelqu'un, c'est surtout les gestes à pas faire en fait. Qui deviennent une barrière plus tard, c'est que des fois on a l'impression qu'on réussit et on peut très bien tourner un an, deux ans, trois ans. Il y a un jour on fait une pièce et on se dit mais mince, ça veut pas y aller. Et c'est là qu'en réalité on aurait besoin d'un formateur.
Ouais. Alors c'est pour ça que tu as eu le besoin de rencontrer des gens pour t'aider.
Exactement.
Sans ça, tu penses que tu serais pas arrivé vraiment ou...
Non, parce que déjà à ce moment-là je regardais pas il y avait les tutos qui existaient, mais j'étais pas numérique tout ça, donc du coup j'allais vers les gens. Et j'osais demander pour ceux qui voulaient partager.
Oui.
Parce qu'à l'époque, c'était pas. Les anciens partageaient pas forcément les secrets. C'est même pas forcément des secrets, mais ils étaient pas forcément.
Mais alors, tu parles des anciens, oui, comme on dit, le secret des ancêtres. Mais justement, le métier de tourneur sur bois, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est vieux.
Oui.
On est d'accord, c'est pas. Je suis pas spécialiste, mais. On parle de la menuiserie qui est classique, mais je pense que le tourneur, c'est encore plus vieux que le menuisier, non? Ou je me trompe peut-être?
Je sais qu'il y avait c'était très spécifique, il y avait le plus vieil outil, donc le plus vieux tour, il me semble que c'était spécifiquement pour les roues de char. Mm-hmm. Après, dans la création de on va dire dans l'objet divers, je sais pas si c'est vraiment ancien, mais je sais qu'ils avaient le premier tour, où il était du Moyen-Âge, même peut-être avant. Ouais.
Donc tu vois, moi,
il faisait des grosses pièces en tout cas à la base.
D'accord, parce que toi c'est le bois qui t'a attiré, mais c'est vrai que tu aurais pu devenir, je sais pas, menuisier, béniste, non, toi tu as choisi tourneur. C'est.
Ouais, bah, après je sais pas, j'ai
c'est
pas
le hasard choisi. Ou...
Le tournage, c'est très spécifique. En fait, on a vraiment une satisfaction avec la rotation, d'enlever de la matière et de visuellement, il y a des choses qui se passent. C'est pas un métier complet comme le. Il pourrait faire partie du métier de menuiserie et d'ébénisterie. Et le tournage, on a une satisfaction qui est très particulière. En fait, c'est ça qui m'a plu.
Alors, justement, oui, excuse-moi. Justement, quand tu parles de tournage, c'est ça qui m'intéresse. En fait, donc quand tu parles, je sais que c'est pas évident de le faire au micro, mais quand tu parles d'une pièce, peut-être pas d'une chute de bois à chaque fois, mais comment ça se passe? Quel bois tu choisis? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu vas faire? Ou voilà, comment ça se passe quand tu fais des créations? Parce qu'on peut appeler ça des créations.
Eh ben, ça varie.
D'accord.
Je peux tomber si je vais à la chasse au bois. Je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais me faire une balade en forêt et je vais essayer de trouver quelque chose par terre. Là, je vais pas me dire, tiens, je vais faire ça avec. Je vais le dégrossir, faire une ébauche. Et en fait, ça va venir au fur et à mesure. Je m'adapte à la pièce et je fais ce qui m'inspire.
Et c'est marrant, tu dis, tu vas dans les bois pour chercher...
Oui, alors parce que du coup, on va dire, la mentalité de l'entreprise, c'est on veut faire du local. Quoi, je veux faire du local, je veux pas faire d'importation. Et surtout être dans l'esprit recyclage, c'est-à-dire éviter d'acheter du bois transformé en scierie. Je le fais, hein, mais je veux limiter. Et voilà, prendre ce qui est devant nous, ce qui est, quand on se balade, on a du bois par terre au sol.
Oui, mais c'est. Ouais. Enfin, c'est... Après, je ne suis pas étonné parce que, comme je disais, mon grand-père il était là-dedans. Il allait lui aussi chercher d'aller voir ce poste-là. Ça fait drôle, je vois que ça se fait encore. Alors, je pense que tu dois avoir en plus le plaisir de ramasser dans la nature et d'en faire quelque chose après, quoi.
Exactement. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi le tournage, c'est aller chercher le bois ou être en randonnée, parce que j'adorais la randonnée. Je dis avant, parce que j'en fais moins. et du coup, c'est plaisant, en fait, depuis quand on devient tourneur professionnel, ce qui est marrant, c'est qu'on a encore plus la vision de... On regarde un arbre et on s'imagine plein de choses, quoi. On se dit, tiens, il est beau, ça pourrait faire une belle pièce, mais bon, lui, il est debout, je le respecte et il est beau, voilà, il est là. Et puis d'un coup, on va tomber sur une pièce par hasard et qu'on va sortir quelque chose d'unique, quoi.
Alors justement, pour tes pièces, il y a un bois que tu préfères ou qui est plus facile à travailler que d'autres? Quel est le genre de bois? Parce qu'il n'existe pas qu'un seul bois, on est d'accord. Donc, quel est le genre de bois que tu aimes travailler ou en général?
Et actuellement, le robinet, que je ne travaillais pas beaucoup avant, parce que j'étais dans la chartreuse, à la base, donc on n'avait pas de robinet. C'était des très jeunes qu'on nettoyait régulièrement. Donc là, je me suis lancé avec le robinet. C'est un bois que j'aime beaucoup, qui a un beau veinage, qui peut être dur, mais qui est assez facile à tourner, mais qui est très particulier au niveau veinage, ouais, et que je ne connaissais pas, donc...
Mais j'avoue que. Donc, le robinet, tu dis?
Le robinet, il faut acacia.
Oui, parce que. Oui, voilà. Quand tu finis là, parce que tu dis robinet, j'ai invité un plombier, en fait, je me suis trompé. Ah, il y a un bois qui s'appelle robinet.
Oui.
Ah, je ne savais pas. Acacia, souvent, tu dis?
Oui, souvent on dit acacia, mais du coup, l'acacia, il n'existe pas en Europe. Donc, c'est le faux acacia. Et. Donc, c'est ni plus ni moins l'arbre qu'ils utilisent dans les mines. Donc je suppose que dans le coin, il y en a eu un moment s'ils avaient dû faire des exploitations pour s'en servir pour les mines et les renforcer, quoi.
Et donc c'est un bois privilège, ça?
Je trouve qu'il est très utile techniquement pour les réalisations. C'est un bois qui est dur, qui est hydrofuge et qui est, encore une fois, il a un veinage qui est... Quoi, j'adore, quoi. Il a vraiment des veinages. Puis il a jamais le même veinage sur une ligne complète, un débit d'une planche. Il a vraiment des aspects très différents de un mètre après un mètre, on n'a pas du tout la même... C'est pas linéaire, quoi, le veinage, il est très changeant.
C'est ce que j'apprécie à cette émission, c'est ce que j'apprends des nouveaux mots grâce à toi. Donc, et après, donc il n'y a pas des bois plus classiques que tu travailles ou dans des créations, en général?
En fait, vu que je fais beaucoup de récupération,
c'est ce que tu trouves,
j'ai beaucoup de fruitiers.
Ah.
Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes, donc moi qui avais des fruitiers, il y a eu les tempêtes, et en fait, j'ai récupéré énormément de fruitiers. Après, j'essaye de récupérer du frêne, parce que j'aime beaucoup le frêne aussi, mais il est un peu plus rare ici, on n'en trouve pas comme ça. Et du coup, c'est mon fils qui m'en donne de temps en temps quand je redescends dans l'Isère.
D'accord.
Donc, je reviens avec la voiture bien chargée.
Il garde pour papa, quoi. Donc, ouais. Donc, c'est bien. En fait, toi qui veux faire voilà, le local et l'artisanal, c'est la matière première, c'est la nature, en fait, avant d'arriver dans l'atelier, quoi.
C'est ça.
Et donc, on va en parler après, c'est que tu fais, bien sûr, dans des marchés. Mais est-ce que tu as un aubaine, est-ce que tu as un petit atelier pour travailler, ou que, à la limite, que les gens puissent venir te voir? Parce qu'on en parlera bon, dans la deuxième partie, mais tu fais aussi des stages de tournage sur bois.
Oui.
Donc, on en reparlera dans la prochaine partie. Tu es donc sur des marchés, c'est ça qui m'intéresse. Donc, tu fais, pas tout le week-end, mais régulièrement des marchés.
Oui.
Et tu proposes quoi comme fabrication à la vente, en général?
Alors, sur le marché, je privilégie les pièces, on va dire, à tarif moyen. Mmh. Parce que le marché, c'est pas un lieu où je vais mettre des pièces d'art ou des pièces plus onéreuses et plus travaillées. Donc je propose ce qui peut être plus ou moins utile, des boîtes à bijoux, des coquetiers, des gobelets japonais.
D'accord.
Ce genre de choses.
Eh bien écoute, on en parlera dans la deuxième partie, parce que toi, mon collègue, il a fait son petit signe, qui veut dire on va passer la pause musicale, et on se retrouve donc après cette petite pause pour parler des marchés et pour parler des stages de tournage sur bois. Merci.
Oh, lies within. Ours is a fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. But all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, yes, all of my love to you now.
Présence à Figeac 97.7.
Et nos retours à l'antenne donc après cette pause musicale. Et donc nous sommes toujours donc avec Grégory alias Greg Okopo, donc un tonneur sur bois d'Aubin. Donc Grégory, dans cette deuxième partie, je voulais que tu parles spécifiquement parce que bon, moi je suis pas bricoleur pour dessous, j'ai deux bras à gauche comme on dit. Donc avec quel outil un tonneur sur bois travaille en général?
Ok, et ben on travaille avec des outils qui sont assez proches des ébénistes. Mmh. Donc des couteaux, des gouges, des planes. Donc du coup, c'est des outils. Il y a, on va dire, deux catégories grossièrement. C'est soit des outils qui coupent, qui tranchent ou qui grattent. Donc après, on a des angles d'attaque, tout ça. Il y a des outils, des racloirs arrondis. Les planes, c'est plutôt droit. Voilà, il y a des outils pour démarrer, pour dégrossir, les gouges à dégrossir. Après, on a des outils pour venir former. Donc il y a les gouges à profiler. Et après, voilà, on peut même se fabriquer des outils pour faire du sur-mesure.
Ah, tu peux te fabriquer des
outils? Oui.
Ça t'est arrivé de fabriquer un outil que tu avais besoin?
Je le fais souvent.
Ah, ça c'est pas mal.
J'achète en brocante des outils avec des métaux vraiment anciens qui étaient très costauds, des bénistes. Et je les transforme et je fais des angles, des formes qui vont faire que je vais arriver tout de suite à la forme désirée sur mon travail.
Parce que dans les outils qui existent en vrai, ça n'existe pas? Ou ça ne suffisait pas, pardon?
Alors, c'est... Oui, il y a le côté, j'ai pas envie de tout le temps acheter, parce que d'accord. Je trouve que c'est... Si on peut le faire, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'acheter sans arrêt. Et puis, c'est plaisant de bricoler son outil, de travailler après, c'est hyper satisfaisant, quoi.
Ah oui, j'avoue, ouais. Ouais. Je pensais pas... Oui, donc, on est vraiment dans le côté mélange d'artisanal et d'artistique, comme je disais à la pause. Et donc, ça, c'est les outils. Et après, quand tu as ton tour, en fait, alors moi, je suis... comme je t'ai dit, je suis pas bricoleur, mais il sert à quoi exactement, le tour? Quand tu fais le tour, tu as une machine qui s'appelle le tour, c'est ça?
Oui, le tour à bois.
Et le tour à bois te sert à quoi exactement?
Et bien, lui, le tour, on va dire qu'il fait une grosse partie du travail, puisque du coup, il va tenir la pièce soit entre pointes, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle la poupée fixée, la poupée mobile. La poupée fixée où il y a le moteur, et du coup, poupée mobile, c'est ce qu'il y a en face sur le. un espèce de rail, le banc. Et en fait, on vient coincer entre pointes la pièce. Après, on peut prendre par mandrin en prise unique, en l'air. Mais du coup, globalement, donc, c'est pour prendre la pièce, la faire tourner. Et on va venir dérouler le bois avec l'outil, ou le gratter, comme je disais tout à l'heure.
Ouais, c'est pour ça que je voulais en parler aux auditeurs, parce que je pense que je ne suis pas le seul novice qui écoute la radio et qui ne connaît pas le tournage. À moins que mon ami Armand s'y connaissait un peu.
Pas du tout, non.
Voilà. Alors, t'évites de remuer la tête à la radio, personne ne t'entend.
C'est ça.
Ça ne sert à rien. Et du coup, donc, je voulais en revenir, donc, les outils, ce que tu fais. Je voulais en revenir aussi à tes créations, parce que tu passes de... tu fais des stylos, magnifiques d'ailleurs.
Merci.
Ah non, mais c'est la vérité, ils sont vraiment fabuleux. Et t'en parlais tout à l'heure que des fois, l'art a un prix, on est honnête. Et donc, t'as des créations qui ont tel prix, mais... Tu as voulu, pour faire plaisir à tout le monde, faire des objets peut-être plus onéreux. Alors, est-ce qu'ils sont plus faciles à fabriquer, du coup, ou non, ça n'a pas de rapport. Comment ça se passe, en fait? Parce que sur le marché, tu m'as dit que sur le marché, justement, tu voulais faire attention à ça. Tu voulais pas amener que des... qu'il y en ait pour tout le monde.
C'est ça.
Et donc, quand tu procèdes, comment, du coup?
Et un peu comme tu viens de dire. Donc, du coup, je fais des pièces qui mettent moins longtemps à être faites, qui ont besoin de moins de séchage. Parce que dans mes tarifs, bien sûr, je compte mes mois de séchage pour le bois. Donc la totalité. Donc oui, effectivement, je fais des pièces les plus simples possibles, mais qui sont utiles et qui vont durer toute une, qui peuvent durer toute une vie.
Tu disais de mois de séchage, pardon.
Oui, parce que les pièces. Alors le bois, on peut le travailler. Alors moi, j'aime beaucoup travailler vert, mais par principe, le bois, on fait sécher des mois, des années.
Des années.
Oui.
Mais alors, c'est curieux ce que je veux dire. Mais comment tu fais, du coup, tu travailles tous les jours, donc...
Donc on fait du stock. Après, les nouvelles générations, on commence depuis un moment à tricher. Tricher, c'est ce que les anciens, les puristes, ils disent. Mm-hmm. Après, c'est en fait... le bois vert, l'avantage, c'est ce que je disais tout à l'heure, je les préforme. Et du coup, ça me permet de facilement faire mon ébauche. Mais vu que j'émincis mon bois... Donc finalement, il a besoin de moins de temps de séchage, puisque j'ai moins de matière. Donc c'est un peu ça que je dis tricher, mais c'est pas de la triche, quoi.
Non, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, je pensais pas qu'il fallait autant de séchage, mais comme tu disais tout à l'heure, donc petit côté randonneur d'aller chercher le bois dans la forêt, donc on est d'accord, quand tu rentres avec le bois, tu peux pas t'en servir.
Alors celui que je récupère, oui, il faut qu'il reste des mois. J'en ai récupéré, par exemple, il y a 6 mois, et il est stocké en haut à l'étage, et lui, je le touche pas pendant un an et demi, 2 ans, quoi.
Ah oui, putain, oui. J'avoue. Ah oui, non, mais là, je suis sidéré. Je pensais que. Bon, après aussi, comme tu dis, c'est parce que tu veux pas non plus tout acheter prêt, donc c'est le sacrifice à faire, c'est l'attente, tout ce qu'il faut derrière, quoi.
C'est ça.
Ah, mais j'en reviens. Ah ouais,
oui, puis il y a toute une préparation. Il y a le faire sécher, mais dans des conditions particulières. Il faut pas qu'il fonde. Donc souvent, on le traite à la paraffine, en bois de boue, pour éviter qu'il éclate. Parce que le bois, s'il sèche, en fait, il faut éviter vraiment qu'il sèche rapidement. Et pour limiter le fendage en bois de boue, on lui met de la paraffine. Il y a des autres techniques, il y a des gens qui mettent dans des bacs avec de la sciure. Mais il faut, faut vraiment réduire prolonger le temps de séchage. Et calmement, quoi. Faut pas que le bois éclate.
Ah, mais je sais, mais alors là, ouais.
Ah, mais c'est passionnant, hein. Et puis on fait plein de bêtises, hein. Même moi qui ai l'habitude.
Allez, vas-y,
on fait des essais.
Vas-y, balance une bêtise, vas-y.
Une bêtise, non, c'est pas une bêtise, c'est que j'avais récupéré un beau. Vraiment un beau morceau de loupe. Et du coup, je l'ai stocké dans une pièce où je pensais que ça allait être adéquate. Et cet été, du coup, il a pris la chaleur et ma belle pièce a été bonne à mettre au feu. Parce que du coup, il a séché, je sais pas, pendant un mois, il a dû se prendre une montée de température et je l'avais pas, j'avais pas mis de paraffine, il a éclaté.
Ah, donc la paraffine.
Et il était préformé, donc il y avait eu des heures de travail dessus, c'était un bois en plus qui était très dur.
Ah, ça a dû être un peu dégoûté.
Ouais, j'étais déçu, ouais.
Et donc, d'où l'importance, voilà, de la paraffine ou tu dis la sciure aussi?
Oui, il y en a, alors du coup, on fait des ébauches ou des carrelés, ça peut être des carrelés pour les stylos. On les préforme et du coup on remplit un bac de sciure et on met notre pièce dedans, on met la sciure et la sciure va faire un peu comme le rôle de la paraffine, faire une couche et elle va absorber l'humidité mais sans que l'humidité sorte rapidement, en fait ça va freiner la sortie d'humidité. Donc ton bois il va sécher très doucement et on va garder l'aspect de la ligne du bois, il va moins se courber puisqu'il séchera doucement.
Alors tu vois, tu parles de sciure et je reviens à copeaux. Maintenant, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Facebook que en travaillant tu faisais pas mal de copeaux. Alors j'en profite aux auditeurs qui seraient intéressés parce que tu donnes ceux qui ont des toilettes sèches par exemple.
Oui.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent maintenant. Tu proposes donc de leur filer tes restes de copeaux.
Exactement.
Ça c'est chouette d'y repenser.
Oui, ça nous paraît logique et puis ça a du sens, quoi.
Bon, après, toi, c'est vrai, ça doit te soulager un peu. De... Parce que honnêtement, t'as fait quoi sinon?
Eh ben, on a des toilettes sèches, mais ça part pas assez vite. Là, en période de Noël, je travaille énormément des grosses pièces. Je fais un demi-mètre cube de sciure par mois. Ouais. Mais moi, j'arrive pas à y croire, mais bon.
C'est énorme. Tu voulais pas te faire un matelas, Armand, avec ça?
Matelas, non.
Non, non, ça serait sympa.
Par contre, je connais quelqu'un qui a des toilettes sèches, ça pourrait l'intéresser.
Oui, voilà, mais Greg en a parlé sur Facebook la dernière fois, tu lui proposais.
Oui, puis j'ai trouvé facilement. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis aux toilettes sèches, du coup, voilà.
Non, mais avis aux amateurs. Mmh. Du coup, Armand, on va conclure donc la première partie de l'émission et on se retrouve bien sûr. Un peu plus tard pour la seconde partie, toujours avec Greg au copeau, toujours le tournage sur bois et toujours sur Radio Présence Figea 97.7. Merci.
C'était votre émission Passionnément Votre, l'émission 100% Passion avec Chris Arnal.